les derniers instants, c'est la descente qui est désormais officielle.
National, ça se bat.
Mais t'es pas de suite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est mal l'air, bébé.
C'est à côté là qu'il va pouvoir récupérer le ballon. Et marquer Ivan Botella.
Et je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne méritait pas.
Bon, un geste technique réalisé avec beaucoup de technique.
Bonsoir, bonjour, 2026, année de la saucisse, mais surtout 2026.
Ah ouais,
c'est les 30 ans du LNK. C'est les 30 ans du MNK.
Juju est l'imitateur officiel de la France.
Eh oui, sortez les bougies, aujourd'hui Seb, Aurélien et JB, et puis même Claire, voilà, qui squatte dans l'émission, se joignent à moi pour fêter les 30 ans du MNK avec Fabrice Coursin, fondateur et ancien président du Malherbe Normandie Cop. WAM l'émission, c'est parti. Seb,
ouais.
Je t'ai vu sur les réseaux là, tu t'es lancé sur TikTok.
Mais oui, mais ça fait longtemps.
C'est pas assez, c'est pour toi le kick à tweeter?
J'ai pas pris la grosse tête, je suis encore à Caen, je me balade, je me promène tout seul. J'ai pas de sécu, le succès m'a pas changé. Tu peux me voir à Caen, tu peux me voir au marché, tu peux me voir dans des brocantes, tu peux me voir partout, tu peux me voir à Mondeville 2, parce que bah ça a pas changé pour moi et j'ai pas fait ça pour le buzz.
T'as pas pris la grosse tête depuis que t'es président de...
C'est qui?
Je passe à un mec sur TikTok. Voilà,
Ah oui, merde, parce que normalement le principe quand tu racontes ça, c'est que t'es connu.
Ah oui, non, bah non.
Ah bah non, d'accord.
Voilà, okay. Il est pas connu. Je pense que c'est un peu le
Michael
Vendetta de Caen.
Oui, ok, très bien.
Le kick à tweeter. Alors, on peut rappeler peut-être le principe de ce jeu, puisque c'est un jeu avec des points et tout ça.
Ah oui, oui, c'est. Et puis oui, il y a des règles,
y a une rigueur
très précise, une rigueur, ça déconne pas. D'ailleurs, t'es très mauvais. voilà, kick à tweeter, kick à dit, la règle est dans le titre, en fait.
Donc voilà, Fabrice, si tu as lu ou suivi l'actu, tu n'hésites pas à essayer de deviner kick à tweeter, kick à dit, kick à tout ça.
Claire aussi, hein, je sais que tu es au taquet sur le Kikadi. Kikadi, je ne suis pas la personne qui décide, je suis la personne qui oriente. Si j'oriente et qu'on ne m'écoute pas sur plusieurs dossiers, j'aurai un problème avec ça.
Gaël Clichy,
ouais, c'est le coach.
Bien joué.
C'est Parajo en tout cas qui oriente le jeu.
Est-ce que ça ferait pas référence genre au dernier mercato par exemple?
Au dernier ou à tous ceux d'avant en fait, hein.
Oui, enfin lui, mais il est là depuis qu'il
avait dit,
hiver. Ouais.
Ouais. Il avait dit effectivement qu'il était pas, enfin qu'il avait proposé des choses mais qu'il avait rien eu donc
voilà. Donc en tout cas le message est passé, je crois. Kikadi, au fil du temps, ça a évolué. De plus en plus de jeunes nous ont rejoints. Filles comme garçons se sont mélangés au groupe. Certains se sont mis en couple, se sont mariés, puis ont eu des enfants qu'ils emmènent désormais au stade. Ça fait de nous, je pense, un groupe à part dans le monde des tribunes françaises.
C'est Jean Patouche, ça je me rappelle. Ouais.
Olaf.
Ouais, c'est Olaf. Ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble, ouais. Fabrice. Mais groupe à part, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle du MNK.
Je sais pas s'il y avait un gamin de consul à Nantes là.
Ah oui. Là, vu la position, je suis pas certain. Bon bref. Je t'explique. Qui a tweeté de cette première saison de Malherbe en national? Pas beaucoup de matchs nous auront marqué, mais on se souviendra des 30 ans du MNK.
Ça, bon, c'est vrai.
Je pense que beaucoup de monde l'a pensé. C'est Willy Gorter sur.
Ah ouais.
Pas le vrai. Un tweetos qui s'appelle Willy Gorter, qui est con. Pardon.
C'est vrai qu'il est pas très fort à ce jeu.
Non, il est vraiment nul. Kikadi, je pense qu'on peut aller voir n'importe quel stade en France. On ne retrouve cette ferveur nulle part. C'est une grande fierté. Et si certains en doutent, mais je ne le pense pas. Ce que l'on souhaite mettre en place, c'est qu'on veut leur rendre. Et le moment où on aura toutes les planètes qui s'alignent, c'est là que nous vivrons des moments qui seront gravés à vie dans les mémoires.
C'est le coach aussi, ça, non?
Non.
Le président?
Non.
Le maire de Caen?
Non.
Ouais. Bon, alors là, c'est Faïza?
Non. Bon, je vous donne l'indice facile. Il a une coiffure, mais incroyable.
Ah, Jocelyn Flamand.
Voilà. Oui, j'adore sa coiffure. Par contre, alors Jocelyn Flamand, donc c'est gentil d'avoir dit ça, c'est très bien. Bon, il a une coiffure formidable. Par contre, au niveau service des bières,
c'est pas ouf. Il était au bar, c'est lui qui servait les bières
avant le match,
effectivement, avec le DRH dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Un flamand qui sert les verres quelque part, c'est pas déconnant. Hein.
Non, enfin, c'est vrai.
Vous avez. En fait, j'ai dit verre à la place de bière, ce qui a vraiment caché.
Qui a complètement foiré ta vanne. C'est con. Non, mais elle était bien. Qui a dit ils ont fait usage d'engins pyrotechniques, ont déambulé héroïcuère, puis se sont dispersés, et il n'y a pas eu de dégâts ni d'arrestation.
Oh, ça doit être un collègue.
C'est la police. Police municipale, vos papiers, bonjour. C'est la police qui a dit ça, rapport à ce qu'a fait le MNK. Donc, c'était la veille des 30 ans, vendredi soir.
Place Saint-Sauveur.
Place Saint-Sauveur, où il y a eu donc, feu d'artifice, craquage.
Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça.
Ça a un peu fait paniquer les.
Non déclarés.
Les gens qui, les gens qui dînaient au restaurant chez Monsieur Louis. C'était un peu la panique.
Et ça va, t'as quand même fini ton dessert.
Moi, je suis sorti, j'ai applaudi, puis je suis retourné parce que les profiteroles étaient pas mal, ouais.
Ah, très bien. Kikadi, donc vous voyez, il y a toute une thématique autour d'un anniversaire. Kikadi, je suis natif d'ici, le SM Caen, c'est mon club de cœur, et depuis tout petit, je les vois, les supporters du MNK. Le COP a désormais 30 ans, et je me dis que je grandis, que le club grandit aussi. C'est un petit truc en plus par rapport à d'habitude.
C'est Léo Millinaire qui a dit ça.
Ouais, tout à fait, Léo. Ouais. Le Bayeuxin.
Le Bayeuxin.
Ou Bajocasse même, qui est né à Bayeux, je crois. Qui a dit « Je n'avais pas besoin de les voir mettre une telle ambiance pour savoir. Quand j'accepte de venir à Malherbe, je sais que c'est un club qui est différent, qui a un parfum anglais, qui est encore loin de ce que l'on peut vraiment faire. C'est à nous d'aller les chercher et espérer ne pas avoir à attendre 30 ans pour les voir comme ça. »
C'est quelqu'un qui a joué en Angleterre, justement. Gaël Clichy.
C'est le coach.
C'est Gaël Clichy. Toujours sur la même thématique, Kika dit « On fait ce métier pour ça. » Et ça va le devenir de plus en plus avec les clubs relégués et ceux qui vont rejoindre la Ligue 3. Ce championnat va être de plus en plus exigeant. Pour nous, c'est un bonheur de jouer dans de tels environnements devant un public que j'ai trouvé très correct.
C'est le coach de...
Stéphane Rossi.
Non, ok, bon.
Voilà. Bon, c'est cool quand même l'adversaire.
Arnaud, c'est la ville de Concarneau.
Je sais pas si t'avais entendu ça, Fabrice.
Non, j'avais pas entendu la dernière.
En après-match, il a dit ça.
Donc, ce que tu viens de dire, je pense qu'on n'avait pas pris forcément conscience de l'importance du MNK depuis quelques temps. Ouais.
Qui a dit « Je ne vois pas souvent le match et parfois, c'est pas plus mal
». Tous. Rajo.
Un capot, t'as dit
un capot, ouais. Non,
c'est Yaya qui a dit ça dans la presse. Yaya qui est un capot du MNK. Qui a dit ?
Ah, mais c'est pour ça qu'ils gardent la foi, les mecs, en fait.
C'est ça. Tu m'étonnes qu'ils restent, ils ont tous le dos tourné. Qui a dit ? Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions.
J'arrive pas à prononcer son nom.
Pourquoi ?
Un mec a un prénom de série américaine.
Faut quand même prévoir notre futur président, quoi.
Écoute, ça n'engage que toi.
Alors par contre, rien à voir, mais juste pour savoir, est-ce que sac à merde c'est une insulte ou... Donc c'était Jordan Bardella.
Est-ce que c'est nous qui venons Mbappé? C'est drôle quand c'est quelqu'un d'autre. C'est notre Mbappé.
C'est notre boulot.
On a envie de le défendre maintenant.
C'est clair. C'est ça. Il arrive à me faire à me faire aimer Mbappé. Qui a dit ?
Y a pas de problème.
Oui, parce que d'ailleurs, si Sakakaka a dit ça, c'est parce que Kylian Mbappé avait dit qu'il était contre. En gros, je sais plus ce qu'il a dit exactement.
Oui, ce qu'il dit à chaque fois d'ailleurs. Hein,
on sait ce qui arrive quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Voilà. Il a dit un truc comme ça. Qui a dit ? Toi qui aimes l'odeur de la saucisse frite.
Oui, je l'ai vu ce truc-là. Tu l'as repris avec WAM, je crois.
Oui.
J'ai
fait une capture d'écran de ça, c'est une vidéo. Toi qui aimes l'odeur de la saucisse frite.
Oui, c'est dans une pub ou un truc comme
c'est
ça.
C'est une pub promotionnelle pour la Ligue 3. Voilà.
C'est vrai ?
Ah voilà, oui. C'est ça. Et en fait, et d'ailleurs, ça a été fait par l'ami par Carré Croix, l'ami Théo Hamel et tout ça.
Et Axel.
Et voilà. Et en fait, voilà. Donc, ils ont fait une vidéo promotionnelle et dans les punchlines, il y a toi qui aimes l'odeur de la saucisse frite.
C'est vrai, c'est vrai.
Bah après, c'est bien. Ouais.
C'est le principal argument, je trouve. Même. Bref. Qui a dit le temps viendra pour faire un choix définitif, mais c'est vrai que je ne reste pas insensible à Caen.
Ah, bonne mère. Non,
Nasser
Labouette.
Voilà.
Ah, oui.
Voilà, voilà. Et qui a dit personne ne sait ce que j'ai dans ma tête. Là, justement, là, c'est Mathieu Bonne mère.
Effectivement. Je trouve ça assez fou.
Bah moi aussi je trouve ça fou parce que tant que c'était dans Foot Mercato,
c'est ça.
Allez, c'est bon, là c'était dans L'Équipe quoi. L'Équipe qui a dit, donc je cite, selon plusieurs contacts, Bodmer serait aujourd'hui proche de Caen, son club formateur. Une venue conjointe avec Mohamed El Karaz, directeur sportif adjoint et coordinateur du recrutement du HAC, et Julien Momon, responsable analyste du jeu et data, est évoquée.
Je suis un moment qu'on a connu sur Twitter à l'époque, oui, si vous vous souvenez.
Tout à fait.
Un peu mon sosie. Non, mais c'est vrai, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'on se ressemblait. Ouais. Voilà. Maintenant, je ressemble plus à Mathieu Bodmer.
Oh non, c'est pas vrai. Ouais. Il est fit en plus. Qui a dit « Les Français adorent se plaindre, les Français adorent être malheureux ».
Vous l'avez pas vu, ça ?
Si, je l'ai vu, mais...
C'est qui c'est ?
Alors c'est très visuel, je vais vous montrer parce que c'est en première page d'un magazine. C'est Kiki. C'est Kiki en une de Vanity Fair.
Belle une, hein, c'est pas d'attention.
Et du coup, ça explique le rachat du club et tout, hein, parce qu'effectivement, on adore se plaindre et être malheureux. Il y a une certaine cohérence derrière tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans cette interview-là justement qu'il a taclé l'extrême droite. Kikadi, l'ambition, c'est un championnat innovant qui a sa propre identité, attractif, pérenne, régulé économiquement pour permettre au club de s'y engager avec une durabilité, ancrée dans les territoires, populaire et au plus proche des supporters.
C'est a priori à propos de la Ligue 3.
Ouais, c'est quoi, c'est Diallo, le président de la Ligue.
C'est Philippe Diallo, tout à fait, bien joué.
Merci.
Il y en a un qui est bon ici. Qui a dit quand il y a des intérêts d'autres clubs, ça s'écoute.
Afid.
Momo Afid.
Oui.
Voilà. Qui a lâché ça sur France.
Ouais. Ce qui est logique. Oui. Bon, c'est pas.
Oui,
c'est
oui,
pas
oui,
le genre de chose.
De toute façon, c'est les. Ouais.
Au passage, j'écoutais l'après-match là, sur France Bleu en rentrant, et donc Garand dit bon, en gros, ça veut dire qu'il part. Voilà. Et il dit rappelez-vous, les joueurs ne disent jamais je veux rester. Oui. Et le seul qui a dit je veux rester, c'était. Les joueurs ne disent jamais je veux partir, pardon. Oui. Voilà. Et quand, dès qu'ils ouvrent la porte, c'est qu'ils veulent. Et le seul qui avait dit vraiment je veux partir, c'était Mandrea.
Et en fait, donc, pour tout dire, donc j'ai vu Patoche lundi. Et en fait, justement, j'en rigolais parce que j'écoutais aussi sur Ici Normandie. Et donc, il y a Irène qui dit ah, ça veut dire qu'il va rester et tout, et Patoche lui dit non, pour moi, vu ce qu'il a dit, c'est qu'il va partir. Ça.
Pourquoi Irène a la même voix qu'Olivier Duc?
Ah, pardon. Ah, c'était peut-être Olivier Duc, t'as raison, c'est possible. Kika dit, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils ont l'occasion de partir pour de meilleurs clubs, un contrat financier ou un club à un niveau plus élevé, et si le club s'y retrouve, je ne m'y opposerai pas. Cela concerne des joueurs comme Momo ou comme Diabé.
Bon, c'est le coach aussi, ça.
Ouais. Mmh.
Ouais.
Ouais. Mmh. Bon, bref, on sait que ces deux-là, au revoir. Hein. Quand eux-mêmes disent, évoquent d'autres pistes et que le coach dit...
Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur Mathieu Bodmer tout à l'heure. En fait, je pense que surtout, c'est des trucs qui sont peut-être déjà quasiment signés, mais que tu peux pas trop dire parce que la saison n'est pas terminée.
Ouais, clairement.
Et que voilà.
Kikadi, j'ai un immense attachement envers le club canet et des regrets d'être parti il y a maintenant 10 ans.
Ah, qui s'est barré il y a 10 ans.
Andy Delors.
Et qui était dans les tribunes du stade d'Ornano.
Ah oui,
samedi.
Oh,
et qui s'appelle Marc.
Un recruteur.
Qui est recruteur d'En Avant Guingamp et dont on parle pour venir avec Nasser Largué. Marc Rivola.
Ouais. Qui a recruté N'Golo Kanté. Ouais.
Exactement. Qui a dit tiens, il y a Pierrick qui raccroche. Le foot français est orphelin. Donc c'est Malherbe moi, et donc c'est rapport à
Pierre
Capel qui est quand même. C'est vrai que WAM a perdu quand même un gros potentiel de jeu de mots. Parce que on l'a fait. Faudrait qu'on s'amuse à regarder comment elle l'a faite, la blague Pierre Capel. Qui a dit il y avait tout le bordel possible, c'était sympa.
C'est Jean Patouche ça, non?
Olaf.
Non, c'était Leandro Morente.
Ah oui.
Ah oui,
oui,
c'est
oui
vrai.
J'ai vu les réactions. Ouais.
Qui a dit en janvier tout le monde nous enterrait, mais les garçons n'ont jamais abdiqué. Bravo à eux.
Le coach de Concarneau,
Ali abdique.
Non, c'est Romain Leroux, le coach de la réserve.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, oui, bien sûr. Quand même, parce que c'est vrai. On donnait pas cher de la réserve et finalement ils
en sortent.
Sont très très bien sortis.
Il m'a servi à saluer doublement puisque donc c'est quelqu'un de bien, Romain Leroux, donc c'est
ouais.
Il fait l'unanimité au centre aussi. Ce qui ressort des articles, même humainement, donc c'est
ouais.
Après, je me prononce pas sur les qualités des gens qui vont remplacer autres, mais voilà, c'était une belle personne, donc on souhaite qu'il trouve quelque chose à sa mesure quelque part.
Qui a posté sur Instagram à la Madrid?
Pendant Kiki. Que son équipe perdait 2-0 par exemple.
Ouais. C'est notre Kiki qui a posté ça avec lui devant la télé alors que son club perd 2-0. Ouais,
ouais. Contre le Barça le soir du titre. Hein,
ouais, ouais, contre ouais. le Barça. Kiki a tweeté, je parle du SMC avec un de mes collègues. Le mec me sort, j'aurais bien aimé connaître la période prime de Caen. C'était avec Crivelli, c'est ça?
Je l'ai vu passer.
C'est Ogrut.
Oh putain, Crivelli.
Le pire, c'est que comme Ogrut était fan de Crivelli, elle est capable d'avoir dit.
Crivelli, c'est quoi? 3-4 buts, à peu près?
6, je crois.
Oh, c'était con.
Ouais, par rapport à aujourd'hui.
C'était la Ligue 1. Hein.
Et enfin, un petit dernier, important. Kika dit, la montée sera mon objectif et forcément la volonté des dirigeants.
Ça, c'est le coach qui a dit ça, ouais. Ouais.
On en dit quoi?
Que pour la première fois, depuis l'été 2024 au moins, il y a un objectif qui est annoncé.
Alors, oui. j'étais donc en studio avec Patoche à ce moment-là, Patrice Garande, qui trépignait un peu en disant « Mais attends, ils en sont encore à... » je sais pas, il en est encore à espérer que ses dirigeants disent que l'objectif c'est la montée. Il dit mais quand on est Malherbe, on peut pas dire autre chose qu'on veut monter en Ligue 2 quoi.
Ouais, c'est pas faux.
Non mais le pire quand tu réfléchis, quand on descendait quand on était en Ligue 2, on disait l'autre objectif c'est quand même la montée en Ligue 1.
Et il peut pas en être autrement.
Ouais. Et là en national on entend on va voir. On va essayer de faire une belle saison.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Voilà.
Tout à fait. Mais merci, Seb.
Mais avec grand plaisir, Julien. Bienvenue sur Radio Courtoisie.
Alors, le dernier match, c'était Caen, Concarneau. 0-0, je pense que le spectacle n'était pas sur le terrain. Non. On va passer rapidement là-dessus.
Oui. Et peut-être... En plus, moi, je voudrais me plaindre parce qu'il y a des mecs qui ont fait des pots de fumée, machin. J'ai rien vu à ce qui s'est passé sur le terrain. J'ai trouvé quelqu'un pour me plaindre.
Ah, tiens, salut Fabrice.
Non, juste quand même sur le match. Lors de la dernière émission, Anaïs avait dit on sort d'une belle série, mais on a quand même joué contre des équipes qui avaient arrêté de jouer.
Ouais.
Bah, là, on est tombé sur une équipe qui avait envie de défendre.
Ouais.
Et tout de suite, c'était plus la même tisane, quoi.
Tout à fait.
Oui.
Oui, c'était un match très fermé.
Ouais, ouais. Quelques occasions en première période, mais rien.
Moi,
de...
mais eux aussi.
Oui. Eux aussi, c'est vrai.
Eux aussi,
c'est vrai.
Les mecs, voilà. Donc, mais effectivement, le top du top, il n'était pas tout à fait sur le terrain.
Et non. Et moi, le top du top, oui. Pardon.
Moi, pour être totalement honnête, je me suis rarement autant désintéressé d'un match. C'est vrai que c'était le spectacle et le truc.
C'est dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, on aurait aimé qu'il y ait une fête aussi sur le terrain. Parce que là, l'ambiance, elle était exceptionnelle.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on était. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça samedi. C'était totalement inversé. C'est-à-dire que normalement, il y a le match qui est le truc qui catalyse toute l'attention. Et il y a à côté les supporters qui font le bruit, etc. Là, limite, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était le spectacle en un. Et puis, il y avait 11 bonhommes qui couraient, enfin 22 bonhommes qui couraient au milieu du terrain.
Non, on
s'en foutait.
Fabrice, toi, tu l'as vécu comment ce match? On t'a vu en bord pelouse, en tout cas au début du match, je crois.
Moi, j'étais plein de fierté. J'étais hyper content. Il y avait un peu de stress pour le tifo. Moi, c'est rien par rapport au bureau du MNK qui était stressé surtout sur la météo en début de semaine. Ouais. Est-ce qu'ils allaient avoir le temps de tout faire le matin, d'installer? Moi, j'étais super content. Je suis pas encore descendu du week-end. Hein. Non, mais sérieux. Et je me dis, alors tout à l'heure, juste une petite parenthèse, tu as dit que j'étais le fondateur. Je suis un des fondateurs.
Un des fondateurs, oui.
On ne réussit pas tout seul. J'étais super content. Et ils m'ont fait un beau cadeau. J'allais donner le coup d'envoi avec Christophe. Ouais. Christophe, c'est Olaf, pour ceux qui ne savent pas. Moi, ça restera toujours Christophe. Ouais. Déjà aux 20 ans, mais là, et puis quand on est revenu sur la pelouse, le stadier nous a oubliés. On était au pied de la tribune, il y avait un bruit, il y avait des chants, ça, c'était génial. C'était génial. Et la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas les 30 ans du MNK, l'affluence, on aurait fait combien? Est-ce qu'on serait tourné à 8000, 8-10 000 comme les derniers matchs, ou est-ce que vraiment les 30 ans du MNK ont boosté le truc?
C'est sûr.
Si c'est passé l'après-midi, je trouve que je sais que ça a été compliqué avec les dirigeants, le bureau du MNK. Ils se parlent, mais c'est quand même compliqué depuis 2 ans. Et je pense que les dirigeants, ils ont pu prendre quand même de quelque chose que le MNK a rassemblé. Il y avait tout le monde, il y avait tous les âges. Moi, j'ai vu plein de supporters que j'avais pas vu depuis longtemps. Et c'était une super fête. Et je remercie tout le bureau du MNK et tous les bénévoles qui se sont mobilisés.
Oui. T'as commencé en parlant du tifo, puisqu'on est sur le match.
J'aime
les tifos même, parce que moi, finalement, j'en compte 3. Parce que tu en as un premier qui dévoile ensuite un deuxième, puis un autre à la méthode, chiffre l'info complet.
Après, ils en ont ressorti.
Sur toute la tribune. Et puis après, des banderoles. D'une part, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'animations différentes sur une tribune. Et alors comment ça s'est passé un petit peu là, parce que
le tifo, ils ont mis du temps à le choisir. Moi j'allais au renseignement, on se met pas d'accord, et finalement en fait ils ont décidé de reprendre l'écharpe qui a été sortie pour les 30 ans.
Magnifique haut, écharpe que j'ai achetée.
En bas c'est en fait on s'aperçoit que c'est tous les logos. Moi j'étais touché qu'il y ait le logo Gunners, parce que c'est notre passé, mais en fait c'est tous les logos des petits groupuscules
de garçons et filles,
les frères Pétard, le Bob 14, la Middle School qui est encore là, Yaya, tout ça, c'est la middle school, c'est la génération, le jeune MNK, et donc tous les logos. Donc j'ai donné un petit coup de main le week-end avant le match, donc le samedi dimanche, et quand je suis arrivé dans un gymnase autour de Caen, et j'étais surpris, il y avait des gamins de 7 ans avec les rouleaux de peinture qui étaient en train de peindre, il y avait leurs parents, il y avait des 20 ans, des 15 ans, enfin je veux dire, il y avait toutes les générations.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, côté MNK, faire un tuto niveau scotch?
Parce que le scotch
a bien tenu. Et je sais qu'il y a d'autres. Alors, je ne veux pas les citer. Il y a d'autres endroits en France où le scotch tient moins bien.
Oui, c'est vrai. J'ai vu ça encore ce week-end. Ils ont encore eu des soucis. On leur avait déjà donné l'adresse de notre fournisseur il y a une quinzaine d'années.
Mais même en Ligue 1, c'est compliqué. Moi, j'ai une petite question. Alors, je mets les pieds dans le plat. Si je ne m'abuse, sur l'écharpe, je n'ai pas vu les Vikings.
Non, c'est vrai. J'explique pourquoi
de ma question, c'est que donc le MNK 96 a été créé.
Non, le MNK 96 putain pendant longtemps c'était
le MNK 96 putain, parce que dès qu'on oubliait le 96 on se faisait reprendre par
le 14.
Donc le MNK 96 effectivement donc a été comme son nom l'indique créé en 1996. Il est la fusion donc de différents COP. Avant il y avait plusieurs COP. À ce moment-là, enfin je vais peut-être te laisser le raconter, mais il y a eu une volonté du président. Enfin c'était même la Ligue, je crois, qui poussait ça.
Imagine, c'était
un COP, un COP par club.
Ouais. Donc il y avait trois groupes à Venoix, et trois groupes en arrivant à Dornano, et le club des supporters officiels. Le groupe le plus connu, c'était quand même la Brigade Viking.
Mais en fait, qui était dans le virage avant 21.
S'appelait le virage Viking au début, 88, 89, 90, début de Ligue 1. Après, ils montent une association, la Brigade Viking, qui deviendra la BV 89. Et en fait, quand ils arrivent à Dornano, ils deviennent pro-marseillais. Pour moi, c'est ce qui les a un peu torpillés. Les couleurs, le drapeau rasta sur la casquette, les couleurs bleu ciel.
Ils avaient les bombers orange.
Et je pense qu'en fait, ça les. Et puis la deuxième année à Dornano, il y a une descente avec des mauvais résultats. Et en fait, ils se retournent contre l'équipe comme ça se fait dans beaucoup de stades aujourd'hui, quoi. Et finalement, ça les a desservis. Pourquoi? On aurait pu peut-être mettre au moins le virage Viking, parce que je pense que c'est. Parce que nous, quand on a créé les Gunners, la Brigade Viking, l'ambiance ne plaisait pas. Par contre, l'ambiance du virage Viking, c'était quand même, c'est quand même.
Donc les trois, Brigade Viking, Gunners et
Les Hound Boys.
Les Hound Boys faisaient partie donc de la.
Alors
les Hound Boys, attends, on va mettre les pieds dans le plat.
Cheveux courts, idées courtes.
Voilà. Bon, c'était les il y avait un groupe de fachos, on peut le dire comme ça.
Il y en a eu un autre après, il me semble, qui est revenu quelques années après. Non, je te parle pas des Game Crew tout ça, mais je te parle de. Il y a eu entre deux noms. Il me semble sur la page Wikipédia du stade. Je crois qu'il y a une mention à un groupe.
Je
vais aller fact-checker. Allez-y, continue.
Donc en fait.
C'était les Alécans, non?
Alécans, c'est le club officiel des supporters.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc eux, ils gèrent la boutique à l'époque.
Ouais.
Ils font les déplacements. Et au début, à Venoix, c'est eux qui faisaient venir la fanfare de Blainville, pour ceux qui
Voilà,
mais en fait, ils n'ont pas d'activité. Alors, ce sont des supporters, il y en a qui sont au club depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'activité dans le stade pendant les matchs, ça ne bouge pas, quoi. Comme tu disais, c'est la Ligue qui avait... qui voulait imposer au club une entité de supporters par club.
Oui.
Pour communiquer plus facilement, machin. Et puis, en fait, le président Viard a anticipé la chose et après la relégation en 95, il demande à tous les clubs de se réunir. Donc, chaque composante est d'abord convoquée individuellement par des dirigeants. on nous explique le projet, tout ça. Après, il y a une première réunion où les quatre sont là, et nous les Gunners, c'est clair, c'est, on fait pas, on travaille pas avec les Own Boys, quoi.
C'était bien ça qui était mentionné.
Soit on se retire du projet, soit voilà. Donc,
ce qui objectivement est sain.
Oui. Voilà. ça se fera sans eux, et après, ce sera des réunions plus ou moins chaudes, hein, parce qu'on n'est pas tous d'accord. Bien sûr. Voilà, pendant 6 mois, tous les mois à peu près.
Et donc, parce que moi, je me dis que là, notre émission, elle va être intéressante aussi pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément toute cette histoire, y compris toi, Juju.
Qu'on a vécu.
T'étais plus jeune,
96, aussi, derrière.
Nous, on est un peu plus anciens, on a connu Benoît. Toi, non, t'es arrivé après.
Oui, je suis arrivé, 95.
Mais en gros, pour résumer les choses, donc fusion entre les trois groupes de supporters, et c'est vrai que globalement, en termes de mentalité, c'est clairement les Gunners. Aujourd'hui, la mentalité qu'on retrouve au sein du MNK ressemble beaucoup à celle qui existait chez les Gunners.
Olivier Duc, la semaine dernière, quand il a présenté, il a dit que les Gunners, c'était la matrice du MNK.
Ouais.
Donc oui, mais au début, nous, avec Olaf, on y a cru. On y a vraiment été pour créer un COP. Vraiment quelque chose, et on était prêt à faire des concessions, quoi. Voilà, c'était chacun donné.
Et donc, si on doit définir la mentalité, très proche de l'Angleterre.
Très proche de l'Angleterre.
Et le nom Gunner, c'est vraiment lié à Arsenal ou pas du tout?
Non, c'est lié à Graham Riggs. C'est lié à Graham Riggs, c'est l'année de son départ. Nous, on s'est créé juste après son départ.
Est-ce qu'il y avait le logo avec le canon et tout?
On avait le canon aussi, ça.
Vous aviez l'amour du Riggs.
Oui.
N'oubliez pas d'ailleurs de partager l'émission, de répondre sur les réseaux sociaux et puis de mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes qui vont bien. On peut pas sur Deezer, mais sur Spotify, on peut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, tout ça. On continue la discussion à propos du MNK avec notre invité Fabrice Coursin. Fabrice, moi j'ai une petite question, je veux juste revenir sur le TIFO. Comment vous faites, tu as parlé d'un gymnase, concrètement la mairie vous met à disposition un gymnase pour pouvoir faire un TIFO comme ça?
Aujourd'hui oui, le MNK travaille bien avec la mairie. Il y a 30 ans, c'était dans la salle chez mes parents. Après, on a eu les coursives du stade, et puis c'est vrai, on arrive à avoir des grands emplacements. Mais là, même un gymnase, c'était trop petit. Il a fallu déplier, et après, il y a eu encore un truc un peu plus grand, mais il ne faut pas trop dire, parce que pour des raisons de sécurité, à chaque fois que tu prépares un tifo, malheureusement.
Parce qu'il y a encore eu tout récemment un vol de bâches et de drapeaux. Sachant que, enfin, pour expliquer aussi à nos auditeurs qui sont pas forcément au fait de toutes les, j'allais dire les us et coutumes,
la culture ultra,
il y a la défense entre guillemets, la défense de la bâche, de la banderole, etc. Sachant que il y a un petit jeu entre guillemets de à qui piquera la banderole de l'autre, etc. Sauf que dans les codes ultra, normalement, ça se passe en face à face. Là, ce à quoi on peut assister parfois, et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a été tout simplement un vol dans un local pendant que vous étiez en déplacement, quoi.
Quelque chose comme ça.
Est-ce que c'est résumé?
Après, le MNK, on n'est pas dans cette.
Vous n'êtes pas dans ce délire-là.
On n'est pas dans ces codes-là, en fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est unique. C'est que, il y a la culture anglaise. Après, les tifos, ça vient d'Italie. Hein. Et puis, on ne veut pas rentrer dans les codes. Sur le bord de la pelouse, avant le coup d'envoi, il me dit, on s'est fait piquer nos bâches. Normalement, les codes ultra, c'est.
On arrête
toute activité. On n'aurait pas fait les 30 ans. Et j'étais pas content. Ils l'ont fait il y a quelques années quand ils se sont fait voler la bâche. En plus, c'est ma mère qui l'avait faite. Donc, je veux dire. Non, mais ils sont restés 5-6 matchs sans activité.
Oui, tout à fait.
Et moi, je comprends pas ça, quoi. Et là, il y a eu le tifo, il y a eu les 30 ans, et il faut pas.
Mais ça, c'est super important et intéressant. Là, ce que tu racontes, c'est le côté, dans la mouvance ultra, c'est vrai que au sein du MNK, il y a beaucoup de personnes, et notamment des historiques comme toi, qui, en quelque part, rejettent ce terme d'ultra. Enfin, rejettent. Le mot est fort, mais disent nous, on est en dehors de ces codes-là. Ouais. Enfin, on a notre positionnement à part.
Voilà. Voilà. Et après, s'il y a des gens qui ont la mentalité ultra, ils peuvent venir, c'est pas un souci. Mais il faut. On n'est pas à fond dans ces codes-là, quoi.
Fabrice, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours au sein du MNK? Comment t'es devenu président et maintenant ancien président
et puis avant le MNK, surtout.
Oui, aussi, comment ça s'est cheminé tout ça?
Bah,
Parce que bon, au départ, t'étais fan du Havre.
Oui. Bah oui, j'ai suivi Philippe Prieur qui a signé à Caen en fait. Et, mais au départ, moi je suis passionné de foot et en fait, le mot passion qui était en gros 30 points de passion et je le dis. Quand je discute avec quelques jeunes, des fois, je leur dis, en fait, il y a la passion du foot et après la passion de Malherbe. Mais ouais. C'est la passion. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la mouvance ultra. En fait, on a notre identité parce que c'est notre passion. Et donc, j'ai commencé, moi, en 83, 84, mais cette équipe-là, je ne l'ai pas vu jouer. J'ai suivi par la presse, le premier poster, voilà, c'était Pascal Théo, tout ça. L'année d'après, mon père, il m'a emmené au stade. Je trouve que la chanson, c'est Buck qui l'a écrit.
Elle franchement,
elle est magnifique, elle est vraie, quoi. C'est comme ça, ouais. Et puis voilà, on vient au stade, mais mon père, il aime pas les grosses affluences parce qu'à Venois, t'es tassé. Voilà. Oui. Donc on fait les matchs quand il y a 3-4 000 personnes. Et donc la montée en Ligue 1, grosse ambiance. C'est un cop naturel, en fait, il n'y a pas d'organisation. C'est les gens, on n'avait jamais joué à ce niveau-là. Et puis la troisième année, moi je trouve que l'ambiance, elle tombe. On voit des gars commencer à penser à insulter le gardien adverse sur les grilles et tout, c'est pas mon truc, quoi. Et après, j'ai des copains qui sont à la brigade Viking, qui sont deux, Johan et puis Bertrand, qui ça leur plaît plus non plus, donc on en discute, on est au lycée ensemble à Rostand, et bon, on a déjà l'idée d'essayer de faire quelque chose. Et puis, Johan va aller chercher Guillaume Costizin, qui il y a quelques années travaillait ici. Et en fait, Guillaume, ça a été un peu notre bouquin le supporterisme pour les nuls, parce que lui connaissait plein de choses sur les supporters et tout, et il nous a appris à une grande vitesse. Quand on s'engage, quand on crée les Gunners, nous on vient avec notre drapeau, notre banderole, on sait pas tout ce qui nous attend derrière, la rivalité, ça plaît pas à la brigade Viking, ça plaît pas aux Unboys, et non mais on s'attend pas à tout ça. Nous on vient là pour supporter Malherbe, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas le même délire, mais voilà. Donc, on crée les Gunners, c'était un 8 août 91 contre Marseille, et puis après, il y a des petits groupes qui nous rejoignent, 3, 4, 5 personnes, et puis on monte vite à 30, 40.
J'y étais.
On monte vite à 30, 40.
J'étais dans le ventre de ma mère, et 5 jours après.
C'est difficile parce que les rivalités font que nous, on déménage la dernière année à Venois, on est obligé d'aller en face, parce qu'on est menacé. Donc le club nous transforme nos abonnements, il nous les met en virage camp, mais à virage camp, ça bouge pas, quoi. C'est mort.
Oui. Et puis c'était le côté des adversaires aussi.
Non, parce qu'ils sont passés sous les tôles cette année-là, en fait.
D'accord, qu'avant, c'était le côté des adversaires.
Ils sont sous les tôles.
Alors, à propos de positionnement dans le stade, parce que moi, justement, j'arrive un peu après, et ma première image à Dornano, c'est cette banderole Gunners qui est dans un... Il n'y a pas de virage à Dornano, c'est un angle, mais qui est... Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment le COP décide, parce que c'est à peu près avec la création du MNK, un peu après, de se centrer derrière le but, de créer finalement un vrai COP.
Ça vient après.
Au départ, le MNK
sort. C'est les Vikings qui sont centrés. Ouais. Au début, on se met d'accord pour être avec eux. Mais comme les Young Boys viennent, nous, on reste pas là. On est excentré et en plus, on se remonte sur la tribune pour pas trop gêner les gens. On a un peu de respect pour pas trop gêner. Donc, la première année, les Vikings, ils sont très, très forts. Ils sont très bons. Ils supportent. Il y a ce côté un peu marseillais. Mais ils sont au moins 200, voire peut-être plus sur certains matchs. Donc, c'est la deuxième année qui se torpille en insultant l'équipe parce que les résultats sont pas là. Et les gens, en fait, ils commencent à se tourner vers nous, à nous apprécier, voilà. Et puis la troisième année, de Dornano, c'est la Ligue 2. On descend, et là, en fait, on commence par un gros voyage à Laval où Olaf, il se fait son kiff. C'est-à-dire, quand on regarde les finales à Wembley de Cup, il y a des drapeaux partout dans les virages, dans le virage, voilà. Et à Laval, comme à l'époque, le stade, il est en ovale, il y a une piste derrière, et on a je sais pas combien de drapeaux détaillés.
Des drapeaux anglais, ouais.
Et voilà. Et puis c'est notre année. Parce que encore une fois, je pense que la passion, elle est plus forte que tout, et on a soutenu l'équipe lors de la descente, on est là, et puis il y a la création du MNK, et puis ça se passe bien sur le plan sportif,
Elle est exceptionnelle.
On est champion de Ligue 2 devant l'OM.
Ouais, avec un niveau de jeu incroyable.
Ouais, des joueurs qui mouillent le maillot. Il y a Franck Priou qui arrive cette année-là, c'est un des joueurs les plus haï quand on joue à Venois, quand il vient avec Cannes, il se fait siffler et tout, et là en fait, c'est un mec qui mouille le maillot, donc forcément il devient... Il y a Luc Borrelli, il y a même Claude Barabé qui fait une pige médicale pendant 5-6 matchs parce que Luc est blessé. Et j'ai un souvenir de 5-0, je crois, contre Sochaux en coupe où Barabé se tourne vers le COP et il se met à danser. Non, mais c'est énorme, c'est une super année. Et je pense qu'on aurait pu aller en finale de Coupe de France si le tirage au sort du quart de finale n'avait pas été inversé.
Le carton bleu
à Montpellier, qui avait affronté que des équipes amateurs, donc c'était pas dur d'avoir le carton bleu. Et puis bah voilà, et c'est notre année. Et puis donc après c'est la création du MNK, et le MNK c'est un peu un mouvement hypocrite au départ, parce que personne s'apprécie en fait entre les autres. Vite fait, donc il est décidé de faire qu'il y ait un président qui soit neutre. C'est Dominique Minarski qui est là depuis le début. Ouais.
Le speaker,
qui nous vient de Rennes. c'est un bon
d'autres,
speaker.
D'autres amis avec
c'est les Rennes. C'est un bon speaker. Et donc, on monte en Ligue 1, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les résultats ne sont pas là. Pierre Mankowski a été limogé le lendemain de la montée. Franck Priou n'est pas gardé. Bon, le recrutement. Les résultats ne sont pas là, donc le COP retombe. Mais
se recentre à ce moment-là. Ou pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
Pas
c'est encore. La Ligue 2 alors.
Pas okay. encore. Ouais. Pas encore. Et je pense que même encore, on n'est pas encore réunis avec les Vikings. Hein. Chacun garde un petit peu. Voilà. Son. Nous, on est descendu.
Oui.
On a commencé. On est descendu vraiment derrière la grille.
Dans l'angle. Ouais, ça voilà.
Et puis. L'année est compliquée, forcément, sportivement. On descend. Le MNK, tout le monde se regarde en chien de faïence. C'est un peu ça. Hein. Mm. Qui va prendre le dessus sur l'autre. Et puis en septembre, je pense que Dominique, nous, on est un peu rebelles avec Christophe. Il nous laisse la main. Voilà. Il annonce qu'il se retire à une réunion. C'était pas prévu. En plus, il m'annonce mon nom comme successeur. Je m'y attendais encore moins. Et il nous met face à nos responsabilités parce qu'on le titillait bien. Mais c'est quelqu'un qui a dégagé le terrain, qui, par son autorité, a effectivement tapé du poing sur la table quand il fallait. Et après l'histoire, voilà, elle commence. Donc moi, je commence à dire, finalement, on va aller voir la brigade Viking, ce qu'il en reste, et on va essayer de travailler avec eux. Mmh. Je prends mes responsabilités, je suis président, ouais. Je dois essayer d'être un peu objectif et neutre. Mmh. Ça va pas durer longtemps, et au bout de 6 mois, je crois qu'on dit, maintenant, ça va être les Gunners qui vont remettre en...
Et ils sont devenus quoi, les anciens Vikings, d'ailleurs ?
Il y en a un qui fait les déplacements, que j'aperçois toujours, et qui fait les déplacements avec le MNK, qui est dans le COP. Voilà.
Parce que comme tu le dis, ils étaient quand même assez nombreux.
Ouais, mais c'est là en fait la différence entre... Il y en a encore, je pense, dans le stade. La différence, c'est qu'encore... Il y a encore un gros noyau de Gunners qui est abonné au stade. Parce qu'on était un peu plus vieux que les autres. On avait 22, 23 ans. On arrivait sur le marché du travail. On était un peu plus mûrs. Et en fait, quand on s'est investi, nous, c'était pas... On foutait pas... On était assez provocateurs, encore une fois. Mais quand on s'est investi, c'était pas pour dire dans 6 mois, 1 an, c'est fini. Nous, c'est juste un passage de notre vie. C'était vraiment quelque chose. On voulait vraiment construire quelque chose, quoi. On voulait emmener du monde en déplacement, donc on l'a fait. Il a fallu, on a changé le mode, les déplacements. Il y avait deux types, les échos, les conforts. Les conforts, ils avaient un plateau repas, ils étaient en tribune. Non, mais c'était ça. Mais après, c'était, ouais. on chambrait dans le bus, mais quelque part, avec le recul, je me dis, c'était des supporters quand même. Ça faisait des années qu'ils venaient au stade. Il y en avait qui avaient connu l'ascenseur D2, D3 en 70. Et c'est vrai que des fois, on a peut-être été irrespectueux, on était jeunes, voilà. Mais en fait, nous, on s'est dit, faut emmener du monde, faut emmener du bruit dans les stades, faut emmener des jeunes. Donc, on a pris des compagnies low cost, même si on parlait pas low cost à l'époque. On s'est retrouvé avec des bus scolaires sur certains déplacements. Ouais.
Tu parles d'ambiance dans le stade. Est-ce que juste avant, peut-être au moment où, est-ce que ça décolle pas au moment où la tribune est baptisée Luc Borelli? Il y a
cette saison-là.
Il y a des résultats qui suivent et ça décolle à ce moment-là.
2000, il y a un match contre le Havre, je crois que c'est en coupe, qui déjà fait une.
Ah ouais. Pas moi, ça. Moi, il m'a vraiment marqué.
Grosse ambiance, ça. Et c'est vrai qu'après on se ressente, et l'année c'est 2003 l'inauguration, 2004.
2004. C'est la fin de cette saison-là, il me semble. Faudra vérifier quand même.
Ah oui, attends, salut, il y a Franck Dumas. Ouais, c'est ça, 2003-2004.
C'est là, et je pense qu'après, ce qui a aidé beaucoup, c'est la finale de la Ligue.
Ouais. C'était incroyable, ça.
Où les gens sont restés supporters. Et ils le sont restés depuis. Venois, ça a été exceptionnel les deux premières années. Mais en fait, après, les gens sont bourgeoisés, surtout qu'on arrive à Dornano, ou Place Assise, et là, ça a été... ça a été 2003-2004. Il y a eu 2000 déjà contre le Havre, où il y a eu après un noyau qui est resté 200-300 personnes et puis qui grossissait dans les gros matchs. Mais après, il y a eu cette saison-là.
Il y a eu 6 mois incroyables jusqu'à la montée. C'était moi, j'ai des souvenirs assez incroyables de cette époque-là. C'était mes débuts en Pop B parce qu'avant, moi, j'étais en face.
Et je pense, faut se dire les choses, je pense que le MNK, le MNK ou les Gunners précédemment, je pense que quelque part, il est pour,
pour certains un vecteur d'attachement au Stade Malherbe. Moi, je pense que c'est le cas, par exemple. Mmh. La mentalité, par exemple, que portent Gunners et MNK, moi, a contribué à me rendre amoureux du Stade Malherbe. Ouais. Quand je vois certains autres clubs, allez, pour pas les citer, allez, pour faire plaisir à mon ami Jean-Baptiste Marie, Nice, par exemple, je sais pas, tu vois, il y aurait cette mentalité-là à Caen. Je sais pas si j'aurais été autant supporter du Stade Malherbe. Moi, voilà, avec mon côté modéré, avec mon goût du second degré, etc., etc. Parce qu'il y a ça en fait. Parce que nous, We Are Malherbe, bon, nous, alors, on n'a rien à voir avec le côté ultra parce que voilà, on n'est pas très. Mais d'ailleurs, on est certain à être membre du MNK, dont moi, je suis membre du MNK depuis très longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, en fait, quelque part derrière notre second degré, derrière les conneries qu'on fait, etc., dans un autre style, on est dans cette famille-là, on est aussi quelque part une émanation du type du supporterisme qui a à Caen et qui a pas forcément ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents de WAM. On nous le demande souvent, est-ce que vous avez des équivalents en France? Il y en a eu quelques-uns, il y a eu un peu Toulouse, il y a Guingamp avec les Root Boys, mais au final, il n'y a pas ça partout. Donc l'originalité du MNK, l'originalité de WAM, etc., constitue une originalité globale qu'on a à Caen, je trouve.
Oui. Fabrice, est-ce que tu aimes jouer?
Ouais, on peut essayer.
Nous, on aime jouer pas. Et JB ici présent nous a.
Ouais, je vais préparer un petit jeu. Donc, 30 ans, c'est l'occasion de faire un petit retour en arrière, etc. Et en fait, on va complètement dézoomer. Et alors, j'imagine un jeu, ça vaut ce que ça vaut. Je me suis dit, je le fais devant Julien. Donc, normalement, ça va passer. l'idée, c'est de se dire que dans ce club, qui est un club de national aujourd'hui, sont passés quand même des grands joueurs. Et le truc, c'est que c'est, ou des moins grands d'ailleurs, mais que nos joueurs, eux par contre, des fois, ils ont côtoyé des grands, voire des très très grands joueurs.
Ah, j'adore.
Et donc l'idée, c'est que je vais vous donner des noms de très très grands joueurs de l'histoire du, enfin, récent ou moins récent, et l'idée, ça va être, et à chaque fois, le point commun qu'ils ont, ces joueurs, au-delà d'avoir des titres et d'être des grands joueurs, c'est qu'ils ont tous joué à un moment de leur carrière, en club ou en sélection, avec un joueur ayant porté le maillot du Stade Malherbe.
Ok.
Par exemple, je vous dis Cristiano Ronaldo, vous devez retrouver
Rafael Guerrero.
Par exemple, Rafael Guerrero. Un autre exemple comme ça, blanc. Je vous dis Antoine Griezmann.
N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté, Thomas Lemar, tout ça. Ça marche. Allez, on essaye. Par exemple, je vous dis Thierry Henry.
William Gallas.
Oui, ça part fort. Alors, j'ai aussi regardé dans les vainqueurs du Ballon d'Or. On a pas mal. Par exemple, Karim Benzema.
N'Golo Kanté.
En équipe de France,
ouais. Et non, mais aussi dans le.
Ah oui, c'est vrai. Il y en a deux autres encore.
Vercoutre.
Ouais, il y a Vercoutre.
Steve Malbranque.
Non.
Ah putain, j'ai pas vérifié. Ouais. Je me suis parti sur Pierre-Alain Fro, mais. quoique non, parce que Malbranque, il revient à Lyon bien plus tard.
Je suis pas sûr.
Pas. Je pense pas. Georges Weah, Ballon d'Or 95.
Borrelli.
Ah, bien vu.
Ouais, bien joué, Borrelli. Ouais.
Il y avait Xavier Gravelaine aussi.
Oui, lui, il va servir pour plusieurs.
Tu dis Gravelaine surtout.
pas tant que ça, en fait. Hein. Ronaldinho, champion du monde 2002.
Bernard Mendy.
Moi, je l'adore. Hein. Thibaut Courtois.
Attends, Thibaut Courtois. Donc en Belgique, j'imagine.
Grégory
Bassett. Bassett. Norman Bassett.
Steve Dugardin. Non, c'est pas du tout les mêmes générations.
Attends, Thibaut Courtois. Ah, ouais,
Est-ce que notre président, ça compte?
Non.
Attends, au Real ou à Chelsea?
N'Golo Kanté. N'Golo. Ah, alors celui-ci, honnêtement, franchement, Luka Modric.
Alors attends, donc c'est peut-être à l'AC Milan et Mbanyang.
Il a pas fait un match avec Ivan Santini.
Alors attention, là on part dans les très grands. Paolo Maldini.
Mbanyang.
Ah oui. Qu'est-ce que j'ai encore? Harry Kane
à Tottenham. Alors attends, Mathis Tell. Ah non, ils ont.
Oui, il n'a pas joué.
Non. Ouais, il y a beaucoup plus simple.
Oui.
C'est
Jordan Tell.
Guerrero,
d'ailleurs. Je confonds du Mathis Tell et Jordan Tell.
Fabien Barthez.
Ah, alors
Dumas. Franck Dumas.
Galas.
À Marseille.
Non.
Ouais,
non.
Dumas à Monaco.
Dumas,
ouais.
Dumas à Monaco.
Dumas et. Et un autre aussi, c'était Anthony Bancarel.
À Toulouse.
Oui. Ouais, à Toulouse. Richard Dutruel.
Il a joué à Malherbe.
Celta aussi.
Ouais, il a joué aussi. Mostova, il a joué plusieurs fois même. Ouais. Avec. et Richard. Oui, pardon, je dis à l'envers.
Oui, parce que c'est ça, parce que
Truel, il a déjà joué à quand on était perdu.
Non, Guardiola.
Donc avec Richard Truel.
On l'a peut-être pas eu celui-là.
Ronaldo, le vrai brésilien.
Alors attends, à l'Inter, Benoît.
Ouais, Benoît. Il y en a même un
à l'Inter, ouais.
Rivaldo. Bon, Rivaldo, c'est facile, du coup, je viens de le dire aussi tout à l'heure.
Bah, Dutruel.
Dutruel. Roberto Baggio.
Ah, ouh.
Avec deux joueurs, deux canets.
Baggio. Ah
ouais. Ouais.
C'est dur, ça.
Il a joué en Italie dans la Juve.
En plein de clubs.
Il a joué à Parme. Attends. Non.
J'ai.
Il a joué avec.
Quel club?
Alors, à l'Inter.
À l'Inter, ouais.
Avec Benoît Coué. Et à Bologne.
Avec
Kenneth Anderson. Alors normalement ça c'est facile. Eric Cantona.
Et Stéphane Paille.
Avec Stéphane Paille, ouais. Grand duo d'attaque. Robinho.
Oh, de Robinho. Robinho.
Ouais.
Attends. Robinho donc à City ou Real? Ah non, en Turquie avec Rivelli.
Ah putain.
Il y avait une attaque Rivelli Robinho.
Oh,
ouais. C'était pas ça?
J'avais Nyang sinon aussi toujours.
Nyang, oui.
Claire, ça va le jeu?
Ouais, nickel.
Je attention. Romario. Ouais, Romario a joué avec un ancien canet.
Eh B.
Et c'est pas du Truel, du coup.
Non. Là, on arrive sur les. Là, on arrive
sur les. Je connais mal ça, carrément.
Célio Silva?
Célio Silva.
Et à la limite, je pourrais peut-être t'en donner un. Vas-y. Genre Maradona.
Voilà.
Ouais, Maradona, j'en ai mis
un. Capitaine Miguel Deron. En équipe nationale.
Ouais. Champion du monde junior ensemble et finaliste de la Coupe du Monde 90.
Ouais, ouais. Zidane. Il y a quelques-uns là.
Oui, parce que tu dois avoir Paille. Il a.
Zizou.
Non, attends,
Steve Savidan.
Non.
Ouais.
Hein non, en équipe de France, non, je suis bête. Non, ça arrive après, je n'importe quoi.
Ah, oui, c'était pas si déconnant.
C'est à Bordeaux.
Pas Zidane.
Si, Galas déjà. Galas, ça c'est sûr.
Ouais. Et à Bordeaux, bah en fait, on recrute.
Moi, il connaît pas. Il Paille. Il jouait avec Paille, non.
Pas Bancarel.
Parce qu'après, Paille est adjoint de Zidane, justement.
Ouais. Ouais, Paille, oui. Paille, quand il retourne, enfin, quand il va à Bordeaux.
Quand il retourne, en 94.
Non, il y avait, alors, toujours Anthony Bancarel, effectivement. Ouais. Et les deux Bordelais qu'on recrute, enfin, les deux autres Bordelais qu'on recrute cette intersaison-là.
Papi Den.
Non,
Joachim Fernandez.
Joachim Fernandez.
Ah, Joachim Fernandez, oui.
Et le dernier, alors, il a très peu joué, c'est le petit numéro 13.
Ouais. Ah, oui, vas-y, le prénom.
Jean-Yves.
De Blasis.
Ouais.
Allez, j'en ai encore 4. Attention, on arrive sur du ballon d'or et même ils sont tous avec plusieurs ballons. Je sais pas. Mais ils sont tous avec du ballon au moins un. Lui, il en a plusieurs. Marco van Basten.
Waouh.
Ouais.
Pete Denbor.
Crois...
Non, parce que j'ai. Non.
Jesper Olsen.
Jesper Olsen
et Gorter.
Et Jerry De Jong. Non. Et Jerry De Jong. Michel Platini. 3 ballons d'or. Il a joué avec.
Jean-François Demergue.
Jean-François Demergue. Ouais.
À Nancy, peut-être, un mec
non.
Qui. Non,
non, j'ai. Je peux pas tout vérifier. Ouais. J'en ai encore deux. Deux ballons d'or. Allez, alors, ballon d'or deux fois. Kevin Keegan.
Oh, Graham Rix.
Graham Rix.
D'accord.
Graham Rix. Et le tout dernier, Johan Cruyff.
Eh ben, Jesper Olsen.
Jesper Olsen, wow. Relax.
Avec Platini, on a Eric Pécou aussi. En équipe de France.
Ah ouais.
Ah ouais, voilà. Bien vu.
Ouais, bien joué. Bien joué. Bien joué.
Sauf ton respect, t'es un tout petit peu plus âgé que nous.
Tu vois, mais Eric Pécou à Caen, c'était 5, quand même quelque chose d'énorme.
Pécou, ouais.
Pécou,
ouais.
Les Pépé Flingueur.
Non, Prieur, les Pépé Flingueur, c'est mais c'est nous, c'est les trois P. C'était Pichard, Pécou, Prieur. Surtout 86, 87, où je sais plus, ils font une saison de fou.
Aurélien.
Oui,
Julien. Regarder ton téléphone.
J'attends l'appel.
Tu as fait une photo de ta chronique de ce que je vois.
Oui, que j'ai tapé sur mon ordinateur. Parce que j'ai pas de quoi imprimer.
2.0.
Attention, on est moderne. Ouais, une petite chronique historique.
Ah.
Alors, j'hésitais un peu hein, parce que je discutais de cette idée avec Renaud qui m'a dit que parler de culture devant un membre du MNK, c'était peine perdue. Mais bon, j'ai persévéré et je voulais revenir sur le nom du MNK 96.
Oui.
Parce que M pour Malherbe, d'accord. N pour la Normandie, qui est rouge et bleu, d'accord. Mais donc le K pour COP. Mais quelqu'un sait-il parmi vous d'où vient le mot COP? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est des colons anglais, je crois, en Afrique. C'est un truc comme ça.
On a un qui est de la culture, ouais.
Ah bah non, je l'ai
pas.
Ouais. Non.
Parce que j'ai vous proposé 4 propositions. Est-ce que ça venait du mot COP qui veut dire flic en anglais parce que c'était un pied de nez aux forces de l'ordre? Est-ce que c'était l'apocope du mot copain, tout simplement, pour la camaraderie en tribune? Ou est-ce que c'était le mot COP qui signifie tête en afrikaans? Alors c'est pas un hommage au cerveau des supporters, mais en fait c'est pendant la guerre des Bourgs, rien à voir avec Pete, qui en 1900 il y a une bataille célèbre, la bataille du Spion Kop, donc le nom d'une colline qui était attaquée par les Anglais, une colline tenue par les indépendantistes donc néerlandais et afrikaners. La bataille était sanglante, c'est une défaite anglaise qui fait beaucoup parler. Il y a à peu près 300 morts et des, pas mal de blessés, de disparus. Et donc en Angleterre, on donne l'image du nom de cette colline sanglante, inaccessible pour les soldats, reste dans les médias, dans les, même les anciens combattants sont célébrés, etc. Et les stades se peuplent à l'époque, il y a notamment Anfield qui est rénové, avec une tribune derrière les buts, qui est une tribune très abrupte, où sont les supporters les plus excités. Et la comparaison vient alors dans les discussions, dans les trucs, et c'est repris même par un journaliste, donc on appelle la tribune le Spion Kop. C'est un surnom.
D'accord.
Mais ça devient même un nom, il est baptisé de ce nom-là en 1928, donc à Anfield, c'est la première qui s'appelle comme ça. Et donc, petit à petit, le fait d'autres stades gardent juste le mot Kop, donc qui veut dire tête, parce que c'est en fait la colline.
Ouais.
Le nom de la colline veut dire la colline, la tête qui surveille, c'est juste un point haut. Ouais. Mais ces supporters qui sont tous debout à l'époque, qui sont derrière les buts, qui font du bruit, qui sont énervés, qui sont peut-être aussi inaccessibles pour l'équipe adverse, voilà, ça SM un peu et on trouve ce nom de Kop dans les stades anglais. Et au fur et à mesure du XXe siècle, le nom désigne, alors par métonymie comme on dit, non seulement la tribune mais aussi le groupe de supporters. Et en fait, c'est intéressant parce que le MNK qui se revendique d'une culture anglo-saxonne, etc., on a parlé des Gunners tout à l'heure, où le coach parlait d'un stade à l'anglaise, le fait de garder ce mot Kop et un bon trait d'union. Et c'est peut-être mieux que d'avoir pris des racines normandes, parce que quand on réfléchit, la colline ici la plus célèbre, c'est la colline des oiseaux. Éventuellement, c'est peut-être la colline au nom d'oiseau parfois. Mais si on y réfléchit, chanter finalement, faire pousser des roses sur une décharge, c'est peut-être une bonne métaphore de la situation du club actuellement. Ou en tout cas, pour l'année prochaine, un bon cahier décharge.
Wow.
Magnifique.
On se couchera moins bête. Il y a encore du travail. Mais
en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a fait ça sans lire ses notes.
C'est ça.
Ouais, comme j'ai changé des trucs, j'ai dit je laisse tomber.
Ouais, bien joué. Bon, félicitations. J'ai une petite question, Fabrice, avant qu'on continue, parce que Seb, tu nous as préparé un jeu.
C'est vrai.
Moi aussi, j'avais préparé un truc, mais on va le garder pour la prochaine émission.
Ça.
Non, d'accord. Le mien, allez.
Ah, on est comme ça.
Ouais, je suis comme ça. Fabrice, tu. Et comment s'est passé le passage de relais entre Olaf et toi pour le poste entre guillemets de président du Bayern de Normandie?
Parce que tu veux faire la même chose chez WAM,
c'est pour un copain. D'accord.
Moi j'avais prévu, j'ai très tôt dans la saison 2004-2005, ouais c'est ça, j'étais un peu fatigué, donc j'avais prévu de passer la main. Au début c'était Mathieu qui était pressenti pour être président. Et puis bon, ça s'est pas fait. Et si mes souvenirs sont bons, en fait, la première année, ils étaient trois. Ils ont fait il y avait Philippe, Olaf et Dudu.
Ah, Dudu et Philippe prend ta carte, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça.
Surnom. Ouais.
Ensuite, il y a eu 8 secondes.
On reste
dans les surnoms. 8 secondes, c'est son surnom, il vient par rapport.
Bise à lui d'ailleurs.
Ouais, Stéphane.
Voilà. Stéphane, son surnom, c'est par rapport aux 8 secondes du maillot jaune. Enfin, la défaite. Enfin, comment il s'appelle? Laurent Fignon, qu'il a perdu le jour de l'arrivée.
Ah oui, c'est pas sa femme qui avait.
Non, c'est pas sa femme qui l'a surnommé comme ça. Ouais,
c'était okay. Ça par rapport à Lemon. Et il est resté 2 ans. Et c'est après qu'Olaf, il a pris la suite, quoi.
Et toi, aujourd'hui, tu es toujours membre du MNK?
Je suis membre du MNK et voilà. Pour l'instant, je suis que membre.
Très bien. Seb, tu nous as préparé un jeu sur l'année 1996.
Ouais, mais alors attends, parce qu'à moi.
Tu voudrais avant le.
Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, samedi, il y a eu donc le match, il y a eu les animations, il y a eu plein de trucs, mais il y a eu aussi un magnifique feu d'artifice. Et il se trouve qu'on avait la chance, avec Juju, d'être en compagnie d'un des plus grands spécialistes français. En matière de JB, t'étais pas loin non plus. Il y avait aussi la cancaneuse et on était avec un des plus grands spécialistes des feux d'artifice. Donc j'en ai profité pour l'interviewer en live.
Guigui, on vient d'assister au feu d'artifice de fin de saison. En tant que spécialiste, est-ce qu'on pourrait avoir ce débrief à chaud?
À chaud, je tiens à féliciter... les artificiers pour leur parti pris, 5 minutes,
ouais.
Il ne faut pas plus, condenser, on peut laisser un petit budget, mais voilà, c'est bien, je pense que c'est bien optimisé par rapport au budget et au contexte, c'était pimpant, court, c'était très bien. La cancaneuse, vous êtes un peu moins spécialiste, vous en avez pensé quoi?
Est-ce qu'il vaut mieux pas 5 bonnes minutes que 10 mauvaises?
Ah ben je le dis toujours à ma femme, ça c'était direct. Je suis avec sa vidange aussi, un avis sur ce feu d'artifice.
Un peu à l'image de notre saison, ça a commencé doucement et un beau final quand même. Bon, à part ce 0-0 qui était un peu chiant, mais non, c'est pas mal. Bon, après, moi, je parlais après Guillaume qui est vraiment expert.
Ah bah, expert international d'ailleurs.
Voilà, je me sens pas très légitime, mais de mon point de vue d'amateur, de novice.
Je rends l'antenne.
Quelle voix ce Guigui, c'est dommage qu'on l'entende pas plus souvent dans l'émission.
C'est vrai, voilà.
La voix de Guigui est incroyable. C'est aussi un physique, mais c'est d'abord une voix.
Et donc. Oui, effectivement, j'ai un jeu. Déjà, première question. Vous aviez quel âge, vous, en 1996?
15 ans.
5 ans.
17.
Quand je vous fous un petit peu vieux. Oui, j'avais un an.
25.
Bon, ok.
Et toi, Seb?
Moi, 15 ans.
Ah ouais, ok.
J'avais 15 ans. Eh ben, je vais voir si vous avez des bons souvenirs, surtout toi. Je vais vous poser des questions sur l'année 1996. Alors, en 96, qui fait le doublé Coupe Championnat en D1?
Auxerre.
Bien joué. Et en Coupe des Coupes, qui a gagné?
PSG.
Ok, qui gagne l'Euro 96?
Allemagne.
L'Allemagne contre la République tchèque.
Ouais.
Quelle personnalité décède le 8 janvier 1996?
François Mitterrand.
Bien joué. Oui. C'est là qu'on va gauchiste. il s'est passé un truc incroyable dans le monde des échecs, c'est quoi?
Kasparov qui a été battu par Deep Blue. Ouais.
Bien joué. Mmh. Quelle femme réalise le doublé 200 et 400 mètres au JO?
Marie-Jo.
Il s'est passé un truc au niveau du téléphone en 96, c'est quoi?
Ah, c'est l'arrivée à l'alimentation à 10 chiffres.
À 10 chiffres.
En mois d'octobre.
On est passé de 8
alors,
à...
Alors, j'avais pas le mot, là, par contre.
Toi, t'as les deux monstres, là.
c'est ça. C'est pour ça que j'ai même pas fait d'équipe.
En fait, on peut jamais jouer avec eux. C'est...
Voilà, ils sont injouables. Quel truc obligatoire a été supprimé en 96?
La vignette. Non, pas la vignette.
Et pas encore, ouais.
Le service militaire, national. Alors, il n'a pas été supprimé, il a été suspendu.
Voilà. Tu vas peut-être l'avoir, celle-là. Peut-être toi aussi, Claire.
Oula.
Quel rappeur est tué de 2 balles?
Tupac.
Tupac, voilà. Il y a une maladie qui débarque et qui provoque un embargo européen par rapport aux Britanniques.
La vache folle, non?
La vache folle.
Crossfield.
Il y a un boys band qui naît en 96.
Oui, il n'a plus
de free.
Tous. Voilà, donc Jus et les boys band.
Franck.
Bon, allez.
Non, il n'est pas mort.
C'est Philippe qui est mort.
Très rapidement, c'est quoi le 11 type de l'équipe de Malherbe?
Alors, quelle saison?
Cette saison 96.
96,
la bonne année.
Luc Borrelli, Stéphane Nièvre, David Sommeil, Milos Glonek. Je vais mettre, alors il y a eu plusieurs configurations, mais moi je vais choisir celle avec Jean-François Perron, Stéphane Dedeban et Raphaël Guerrero, Franck Priou, Pascal Veyrua et Samuel Michel, évidemment.
Ils sont
et ceux sur le banc, tu mets Stéphane Lemarchand
sur la fin de saison. Il y avait Emmanuel Rival qui rentrait
Le
score du 4e match à domicile, s'il vous plaît.
Marseille. Non, c'est pas le 4e. Non, c'est pas le 4e.
Marseille. Le pire, c'est pas le 11.
Il pourrait dire n'importe quoi, on n'irait pas vérifier.
Non, parce que Marseille, c'est le 5 août.
C'est
en août.
Bon, allez. C'est quoi le plus gros carton au cinéma en 96?
96.
Le Roi Lion?
Non.
Scream.
Independence Day.
Ouais, bien joué, Independence Day. Putain, il est très fort. En 96, dans chaque cours de récré, les enfants collectionnent des petits trucs ronds en carton.
Les Pogs.
Ouais. Un petit appareil électronique sorti en 96.
Non. Le tatou.
Pouvais jouer Tamagoshi. Fabrice, Tamagoshi. En 96, pour regarder un film le vendredi soir, tu faisais quoi?
Tu louais
chez Vidéo Futur.
Vidéo Futur, évidemment, les VHS.
Tour le Roi, là.
Voilà. Quelle est la console la plus vendue en 96?
La PlayStation 1.
Oui, mais attends,
elle arrive en France.
Qui écrase à sa sortie
la Sega Saturn.
La Nintendo 64.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et la Sega Saturn, ouais. Et niveau jeux vidéo?
Tomb Raider.
Bien joué, tout à fait. Tomb Raider. Un hypermarché qui disparaît.
Continent.
Un hypermarché.
Non, c'est plus tard.
Mammouth alors.
Champion. Exactement. Mammouth racheté par Auchan. En 96, on faisait comment pour chercher les trucs sur Internet?
Il n'y avait pas Internet.
On cherchait pas.
Il y avait Internet, mais il n'y avait pas Google.
Ouais.
Ah bah non, c'était
Altavista. Altavista, Yahoo. Quel célèbre influenceur aux plus de 20 millions de followers né en janvier 96?
Thibaut Inchep.
Là, je lui ai mis le cas, quoi.
Ouais, j'aurais dit
Squeezie.
Squeezie.
Squeezie à l'âge de MNK, on peut le dire. Qui obtient le César du meilleur film en 96?
C'est pas Independence Day.
Le César, t'as dit?
Ouais.
Un indice quand même, parce que...
Un français...
Oui, mais César, ouais. Voilà.
Son prénom, c'est Mathieu.
La haine.
La haine de Mathieu Kassovitz.
C'est bien sûr.
Qui est-ce qui se marie en 1996 à Neuilly?
Sarkozy. Non, alors c'est Sarkozy qui marie.
C'est Sarkozy.
Jacques Martin.
Non.
À Neuilly. Un mariage en 1996.
Célébré par Sarkozy.
Alors attendez, je vais vous limiter. Wow, qui c'est?
J'ai toujours pas de peur.
La question c'est avec qui?
Avec qui?
Adeline.
Avec la tia.
Laurent Gérard il y a 30 ans.
Bon, et puis, on va se faire aussi un petit quiz musical.
Alors, on appelle ça un blind test.
Un blind test. En top 50.
En 96, on disait quiz musical.
Allez, en 96, on disait. Qui est numéro 1? Allez.
Fugees.
Ok. Numéro 2. Plus dur.
Wizard Chu, non?
J'ai sacrément bailli là-dessus.
J'allais te le dire, justement. Je m'en souviens encore.
T'avais un an. J'ai pas de problème avec la justice, moi. Attends. Non, donc c'est un boys band avec une chanteuse très connue.
Ah oui, Boyzone.
Boyz II Men. Avec Mariah Carey.
Ah oui. Non, j'avais pas ça.
Numéro 3.
Oui, Fools Garden.
Lemon Tree. Numéro 4.
J'étais. Oh, trop bien.
Oui. Sur mon visage.
Je ne savais pas. C'est vraiment pas ta génération,
non,
en fait.
Non,
vous trouvez en moi le courage.
Ophélie Winter.
Dieu m'a donné la foi.
Une chanson reprise par Eric Abidal aussi.
Dieu lui a donné le foie, oui, c'est vrai. 5.
Raled.
Aïcha. 6, un peu plus dur, je pense. À quoi que.
Ah oui, je l'ai. Miles, Robert Miles, ouais, Children.
Tu l'écoutes 4 fois par jour.
Ouais, j'adore.
Donc,
Sérieux?
Oui. Ouais, j'adore cette chanson. J'écoute beaucoup. Sérieux?
Ah oui, Doc Gynéco?
Non. Alors, c'est quelque part quelqu'un à qui on doit notre nom.
George Michael.
Fast Love.
Et nos petits shorts aussi.
Et nos petits shorts moulants, c'est vrai. 8, allez, je vais jusqu'à 10.
Ah bah c'est... I am.
Les Vikings auraient... Vikings auraient trouvé. Hein.
Merde, c'est Marseille. C'est Bad Boys de Marseille. Là.
Bad Boys de Marseille, la Kenoton et la Funky Family.
I am.
Ah. Ouais. Numéro 9...
Ah oui, Alanis Morissette.
Alanis Morissette.
Joli. Ouais. Et le dernier, il est facile et il est magnifique, c'est le meilleur.
Ce soir.
Oh, c'est
bon. Ça
va être
Oh, vas-y, on le laisse. Allez, on laisse en
entier. Ah, on laisse en entier.
Allez. On finit l'émission sur Boris, soirée disco.
Ah ouais, vas-y, baisse un peu, on le laisse en
fond. On le laisse en fond. Alors là, on peut pas s'empêcher. Fabrice, pour toi, c'est quoi l'avenir du MNK là? Comment tu
vois les projets?
Eh ben, on en parlait un petit peu samedi et là quand tu vois qu'il y a deux carrés, à peu près 1000 personnes debout en national, tu peux te dire que ce serait bien qu'un jour en Ligue 2 ou en Ligue 1 ça soit qu'il y ait un mur rouge et bleu en Borély, quoi. Au moins sur la partie basse déjà, même si
en nombre d'abonnés au MNK, t'as combien là actuellement?
Ils sont à 1100.
Ouais. C'est beaucoup, hein, parce qu'il y a quelques années, je me rappelle, on était sur 400, 500, ouais, et encore 10 ans peut-être.
Ouais, c'est oui, à peu près.
De mémoire.
Ouais.
Est-ce que.
Oui, puis ça, en fait, le résultat, la division, changer d'une année. Là, ils sont 1100, ça fait 3-4 ans qu'ils sont à 1100, quoi. C'est stable, les gens, ils reviennent.
Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à, comment dire, au lien avec le club et notamment avec la direction actuelle, comment ça se passe?
Alors, moi, je suis pas dans le bureau, mais je sais à peu près. Olaf, quand il a pris le micro sur le podium, avec il y avait Ziad Hamoud, il y avait Jocelyn Flamand, ouais. Et il a dit, c'est vrai que dès le début, on voulait aussi qu'il y ait construire avec le club et qu'il y ait des relations. Ouais. Donc, ça a parfois été compliqué. Je sais que là, c'est compliqué depuis le départ de Jean-François Fortin, mais ils ont quand même gardé le dialogue et ça va mieux depuis quelques temps. Je crois que le bureau du MNK le dit, hein, c'est le projet semble solide, il est ambitieux, solide, mais après, c'est le sportif, quoi. Il n'y a rien d'acquis en sport. Mais ça, je sais que ça va beaucoup mieux. Il se rend compte, de toute façon, ils l'ont rencontré depuis le début. Ouais. Après, il y a des choix.
Notamment Faisal Amari qu'ils ont rencontré à deux reprises.
Ouais, deux fois. Après, il y a des choix qui leur plaisent pas, et je pense que de toute façon, les choix qui leur plaisent pas, ils vont partir. Je pense directeur sportif ou responsable du recrutement qui en arrête de travail.
Oui. Voilà. Ouais, bon, on lui souhaite en tout cas
un bon
ceux qui ont l'arrêt.
Non, mais en vrai, on lui souhaite un bon rétablissement.
Il est pas mort comme Carlos.
Merci Fabrice d'avoir été avec nous pendant une heure.
Merci mille fois, Fabrice.
C'était vraiment.
On embrasse tous les membres du MNK,
bien sûr. Et puis,
de bon cœur.
Voilà, parce qu'il y a du travail invisible qui est fait, et je pense à Émilie, Mélanie notamment, qui donne beaucoup de temps. C'est le travail invisible, hein, c'est l'administratif, l'organisation des déplacements.
On aurait eu 10 milliards de trucs à dire aussi, mais au MNK aussi, on en parle de temps en temps. Ce qui est très appréciable, je trouve, c'est le côté féminin aussi, qu'on retrouve pas dans beaucoup de COP.
Il n'y a pas besoin de créer des règles sur la parité. Voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est naturel.
Et c'est très appréciable d'aller au stade et de voir de plus en plus de femmes qui sont au sein du COP. Quoi. C'est
oui, oui. Mais fais gaffe, il y a ta femme qui est là.
On se quitte là-dessus. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à la podcaster, à mettre les 5 étoiles qui vont bien. Nous, on se retrouve dans 15 jours, peut-être pour la dernière de la saison ou l'avant-dernière.
On n'en a pas parlé, on est vachement organisé. Un
pronostic quand même pour le match au bagne.
Allez.
Ah, parce qu'il y a un match.
Mais ouais, demain on joue au bagne.
On a rarement joué à un match avec autant aussi peu.
0-0.
Ouais, il y a un bon vieux 0-0 parce que tout le monde s'en fout.
Peut-être on veut juste finir sans prendre de but, il y a un objectif.
Bah, ce qui serait pas mal, mine de rien, et ce qui serait.
Ce qui ferait un 5e clean sheet pour Clémentia.
Oui,
4e pour Clémentia.
Claire, ton pronostic.
Le premier, c'est le pour Clémentia, 5e pour Malherbe.
2-0. Fabrice, ton pronostic.
3-0 pour Malherbe.
Wow, comme elle allait,
le mec il peut pas s'empêcher d'être supporter.
Seb, un dernier pronostic.
Ouais, bon, 0-0.
0-0, allez, moi je dis
des faux supporters.
1-0 pour le stade Malherbe. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Tout.